Piste 6. Plantes entéogènes. Nota bene, entéogène signifie qui amène l'expérience du divin. Nous parlons donc ici de plantes qui peuvent avoir un effet psychédélique, comme on dit à notre époque, hallucinatoire, quand on les consomme ou qu'on respire leur fumée en les brûlant, etc. Mais je ne vous conseille pas de les utiliser, surtout que la plupart sont des poisons mortels. Je rappelle que ce dossier parle uniquement du totem, de l'esprit de la plante. De ce que le totem peut apporter, par exemple, si vous le contactez par méditation, voyage chamanique, mais sans l'avoir consommé, ou des effets qu'on en attend si on le cueille et qu'on le met sur un autel, par exemple. Il ne s'agit pas de l'ingérer bêtement, sans préparation et en étant dans l'illégalité par rapport au pays où vous vous trouvez. Absinthe, Artemisia absinthium, mais Artemisia pontica aurait les mêmes propriétés elle aussi. Aide à voyager entre les mondes, à communiquer avec l'invisible, principalement par voyage chamanique, rêve, sortie hors du corps, à développer aussi le don de voyance. Aide aussi à capter l'énergie vitale, prana, chi, ki, peu importe comment on la nomme. Soit pour se recharger en énergie, ou recharger un malade, etc., soit pour capter cela à des fins magiques dans certains rituels. Son essence ou certains extraits très concentrés sont toxiques si on ne sait pas les doser. Néanmoins, les feuilles sont utilisées sans problème pour faire des infusions. Il y a quand même des contre-indications, notamment pour les femmes enceintes, attention. Et personne n'en meurt ni n'en tire d'effets psychotropes. C'est pourquoi, en raison de cette toxicité relative, elle n'est en général pas considérée comme un totem sombre, voire après pour savoir ce que signifie cette expression. L'absinthe est un totem prisé des artistes, car il aiderait à leur donner l'inspiration. L'absinthe est un totem protecteur des gens, des habitations, des champs, des troupeaux, qui éloigne les mauvais esprits, et en particulier les âmes errantes, et la magie noire. Elle aiderait à unir, mariage également. En homéopathie, Artemisia absinthium 9, 15 ou 30 CH combat la dépression accompagnée de prostration. 3 granules une fois par jour ou par semaine, 6-9 CH, 10 granules par mois, 6-15 CH, 10 granules une seule fois, 6-30 CH. Testé par test musculaire ou aux baguettes ou aux pendules, ce qui convient aux malades. La bruyère. Le docteur en pharmacie Pascal Lamour, dans L'herbier secret du druide, explique que les anciens ont employé la calune comme hallucinogène, en évitant de la nettoyer avant brassage, dans la préparation de la bière. Les Pictes avaient la réputation de détenir des pouvoirs surnaturels qu'ils partageaient avec des fées. Ils les obtenaient en buvant une boisson fermentée, secrète, à base de bruyère. Est-ce pour ces propriétés que depuis toujours la calune et la bruyère sont associées à la divination, à l'eau, à la lune et au féminin? Le chanvre, cannabis. Voir le documentaire La Canacée, disponible gratuitement sur YouTube, pour comprendre pourquoi et comment cette plante a été diabolisée alors qu'elle est en fait un puissant remède médicinal et apporte également un matériau de construction hors norme, un isolant très performant, un papier qui n'entraîne pas les méfaits de la déforestation, un biocarburant réellement écologique, un plastique d'une robustesse inégalée à ce jour et bien d'autres choses encore. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une drogue. Le cannabis vapé seul, sans tabac, sans additifs chimiques, ne provoquant pas de dépendance. C'est en revanche une plante extrêmement dangereuse du point de vue économique, car si on la légalisait, elle obligerait beaucoup d'industries à fermer en nous donnant des matériaux et des molécules plus performantes que tout ce que nous avons pour l'instant sous la main. C'est une plante sexuée puisqu'il existe des plants mâles et des plants femelles. Seuls les plants femelles ont les propriétés médicinales. Pour les chamans, le chanvre est une plante de la paix, d'une importance capitale. Elle n'a pas son égale, et si elle venait à disparaître demain, ce serait un très mauvais signe pour l'avenir de l'humanité, un sacrilège irréparable. Elle peut également servir à réconcilier le masculin et le féminin, ou alors à mettre l'accent sur le féminin sacré, selon ce que vous désirez pour votre rituel. Douceur, rayonnement, apaisement, esthétique. Le chanvre peut aussi, comme toutes les plantes enseignantes, vous murmurer des chants sacrés que vous réutiliserez après. L'âme du chanvre s'est parfois révélée à certaines personnes sous la forme d'une buse, apportant une capacité de vision accrue, tant pour les yeux physiquement que pour la vision dans le sens de discernement, vigilance, lucidité, de voir au-delà de certaines choses, voir avec recul, mais pouvoir zoomer aussi sur un détail, déceler des origines, agrandir son horizon. Le chanvre, comme la buse, apporte la lumière et fait voir. La buse, le faucon et l'aigle volent près de la lumière, du grand esprit, et en sont les émissaires. À ce titre, ils offrent parfois des visions et révélations aux gens. C'est pareil pour le chanvre, qui aime tant s'élancer vers la lumière et qui en est l'un des porte-paroles. Le chanvre aussi peut vous montrer et vous révéler bien des choses et ouvrir votre horizon. La buse et le chanvre percent votre état d'inconscience et vous invitent à la recherche de la vérité. L'IF, Taxus baccata. Il est entéogène dans le sens où certaines substances qu'il contient provoquent des visions, mais c'est un poison mortel même à des doses très faibles, donc son ingestion est quasi impossible. En revanche, par des températures très chaudes, lors de canicules, se mettre dans les branches d'un IF et ainsi respirer les vapeurs qui s'en dégagent peut suffire à induire des états de conscience modifiés. Mais même cela est déconseillé car très toxique. S'il ne vous fait pas communiquer avec les morts, l'IF vous entraînera dans votre propre mort. Alors abstenez-vous, c'est un arbre très particulier, pourtant pas du tout maléfique. Pour ses propriétés, voir avant dans la partie totem végétaux et ci après dans totem sombre. Pavot somnifère ou pavot à opium, papaver somniferum. Même propriété que le coquelicot, vu avant dans ce dossier. Sauf que le pavot est délicat d'emploi, vu l'addiction énorme qu'entraîne l'opium, pouvant conduire à la mort après une longue déchéance. C'est pourquoi il est considéré par certains comme un totem sombre, voir ci-après. Peyote ou peyoté. C'est une variété de cactus américain provoquant des visions. Vous n'en croiserez pas ici car ce n'est pas son climat et il est interdit, considéré comme un stupéfiant. Mais comme il est assez connu et que certaines personnes partent en Amérique se faire initier avec ce cactus, j'ai pensé qu'il serait utile de vous donner quelques informations. Ce cactus est utilisé par certaines femmes guérisseuses mexicaines, même encore à notre époque. Les hommes comme les femmes peuvent s'en servir pour usage personnel ou pour leurs patients. Mais étrangement, la majorité des guérisseurs à peyoté les plus connus, en tout cas reconnus par leur communauté localement, sont en fait des femmes. Il faut dire que ce cactus est considéré comme un ami et protecteur du féminin sacré. La légende raconte qu'avant le peyote, les anciens consommaient surtout le kieri, ou arbre du vent, une variété de datura. C'est bien plus dangereux que le peyote. Le peyote n'est pas un poison, ce n'est pas un totem sombre. Puis, l'usage psychotrope du peyote fut découvert par une femme enceinte qui s'était perdue dans le désert. Assoiffée et affamée, elle se reposa sans le faire exprès près d'un peyote qui lui expliqua télépathiquement qu'il fallait qu'elle le mange, qu'il prendrait soin d'elle et de son bébé. Le peyoté, en plus des visions, et si on sait le doser, permet de traverser de grandes étendues sans se reposer, ni manger, ni boire. La femme put ainsi reprendre son parcours et arriva à rentrer chez elle. Ensuite, le peyoté servit également à diminuer les douleurs de l'accouchement. Depuis, les Indiens Huichols retournent chaque année sur la terre où demeure leur mère, ramasser le peyoté pour leur cérémonie. Pourtant, étrangement, d'après Castaneda, l'entité du peyoté prend plutôt la forme d'un homme, une forme masculine, pour apparaître à ses utilisateurs. Parfois la forme d'une lumière aussi. Comme d'autres plantes sacrées, ayahuasca, tabac, etc., le peyoté nous apprend les chants sacrés si on lui demande. Chant qui nous aide, entre autres, à l'appeler, à rester en contact avec lui. Il est également vrai qu'il décuple les forces. Sous peyoté, on peut marcher des jours sans s'arrêter, ni boire, ni manger. Et un homme peut facilement en soulever un autre d'une seule main. Le peyoté a été popularisé en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie par le livre de Castaneda, « L'herbe du diable et la petite fumée ». Il y est dit: quant au Lophophora William Seeley, peyoté, il apportait la sagesse et la connaissance de la bonne façon de vivre. Ce qui classerait donc le peyoté dans la même catégorie chamanique que l'ayahuasca ou le chanvre par exemple, en en faisant un maître sage et doux, contrairement à des alliés plus guerriers et portés sur le pouvoir ou même la violence, comme le Datura, qui a servi en Amérique comme en Europe à faire entrer des hommes en transe guerrière, par exemple les Berserkers, ou à faire plier la volonté des gens par magie noire. Don Juan, le chaman, dit que le peyoté est un protecteur, un maître extérieur à nous, tandis que les psylobes ou le datura sont plus comme des alliés qui nous donnent des capacités, activent des capacités, bonnes ou mauvaises, en nous. Les totems sombres. La belladone, Atropa belladonna. Datura, stramoine pomme épineuse, Datura stramonium. Morel noir, Solanum nigrum. Brionne, Brionia dioica. Jusquiam, Yosiamus niger. If, Taxus baccata. Mandragore, Mandragora officinarum. Pavot à opium, Papaver somniferum. Ils sont dits sombres car ils paraissent plutôt maléfiques à beaucoup au premier abord. En plus, le fait qu'ils aient été employés par des personnes mal intentionnées en tant que poison n'arrange rien. En fait, ils permettent de plonger dans notre part sombre, notre côté noir. On en a tous un, mais on n'aime pas trop le voir, ni qu'on nous le rappelle en général. Travailler avec l'un ou l'autre de ces totems, ou plusieurs si vous le souhaitez, permet d'accepter sa part sombre, de ne pas vouloir à tout prix n'être que lumineux, que positif. Et ainsi, finalement, de réaliser que rien n'est vraiment sombre ou lumineux, mais qu'il n'y a que des facultés ou des traits de caractère ni bons ni mauvais, mais que tout est au final affaire de dosage, d'équilibre. Cela est d'ailleurs très bien illustré par l'emploi de ces plantes. Autant elles sont toxiques si on les prend par exemple en infusion, autant leur signature énergétique utilisée en homéopathie est puissamment guérisseuse. Par exemple, Belladonna 5 à 7 CH permet de lutter contre les angines, laryngite, la fièvre si la personne a la figure rouge et chaude, les brûlures de radiothérapie, diverses inflammations, otite, conjonctivite, rougeole, scarlatine, les débuts d'abcès, mais aussi l'incontinence, certaines névralgies, etc. 3 granules matin, midi et soir. Quant au datura et à la morelle noire, elles peuvent soigner certaines épilepsies ou autres convulsions. Stramonium 5 ou 7 CH ou Solanum nigra 5 CH, 3 granules matin, midi et soir. Datura et jusquiame noir, Stramonium 5 CH et Yosiamus niger 5 CH, calment aussi les délires, insomnie, état d'hyperexcitation, 3 granules 3 à 5 fois par jour. Brionia dioica 5 CH, à raison de 3 granules 3 fois par jour, soigne les rhumatismes, les bronchites aiguës, les troubles digestifs aigus, colite hépatique par exemple, la constipation, les migraines, certains vertiges, les points de côté. Ces plantes, prises en homéopathie, soignent en fait les symptômes qu'elles provoqueraient si on les avalait à trop forte dose en infusion, décoction ou autre préparation du genre. Rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout est question de manière d'employer et de dosage. C'est le message des totems sombres. À méditer. À noter aussi qu'au début de la pharmacie, on employait certains extraits de ces plantes pour soigner les malades. De grandes découvertes chimiques ont été faites grâce à ces totems. L'humanité leur doit beaucoup. Mais seuls les pharmaciens et chimistes peuvent faire ces préparations, car il y a souvent peu de marge entre la dose thérapeutique efficace et la dose mortelle. Avoir une ou plusieurs de ces plantes en totem personnel indique en général qu'on a une grande faculté de communiquer avec l'invisible et ou de guérir, et ou de voir l'avenir, et ou qu'on peut autant réussir dans la magie noire que dans la magie blanche. Ou encore qu'on peut, selon le contexte, faire preuve d'une immense compassion comme d'une grande violence, ou autre trait de caractère jugé mauvais en général par les gens. Et si ces plantes ne sont pas vos totems personnels, vous pouvez néanmoins travailler avec elles pour progresser sur ces thèmes cités juste avant. Souvent, les gens qui possèdent un totem sombre ont des opinions très décalées par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Par exemple, ils peuvent être pour l'euthanasie en fin de vie, alors que leur époque est contre. Les gens qui ont un totem sombre, quant à eux, trouveront l'idée de l'euthanasie tout à fait normale, logique, ne comprendront même pas comment on peut penser autrement ou débattre sur le sujet pendant que des patients souffrent. Autre exemple, ce sera pour eux une évidence que les médecines douces sont efficaces et ils verront sans problème les travers du système médical actuel, là où d'autres seront aveugles jusqu'à la fin de leur vie. Avoir un totem sombre est souvent le signe qu'on pense ou vit de manière très décalée par rapport à la norme locale. Beaucoup d'artistes ont également un totem sombre. Les totems sombres demandent à être en quelque sorte apprivoisés. Il faut y aller par étapes avec eux. Et si le travail avec un totem sombre ne vous apporte que de mauvaises expériences, voire manque de vous faire mourir, il faut abandonner le travail avec lui. C'est que ce n'est pas votre totem ni votre allié. Mieux vaut en essayer un autre. Le Datura et la Belladone ont la réputation d'être parmi les plus difficiles. Cela n'est pas sans rappeler ce qu'en dit Castaneda dans ses livres. Le Datura a un côté presque manipulateur, s'insinuant dans votre vie sans en avoir l'air, sans que l'on voit à quel point il prend de la place et se nourrit de notre volonté de pouvoir, de puissance, de notre ambition. Si l'on n'y prend pas garde, le Datura nourrit l'ego plus que l'âme. Il est possessif, violent, imprévisible, a un effet délétère sur ses adeptes et confère une puissance superfétatoire, disait Don Juan dans le livre de Castaneda. C'est la dérive de l'ego, en mettre plein la vue aux autres sans servir à rien. La Jusquiame et la Mandragore ont la réputation d'être un peu plus accessibles. Néanmoins, j'insiste sur le fait que les expériences agréables ou désagréables, enrichissantes ou appauvrissantes, libératoires ou asservissantes, dépendent avant tout du fait de trouver le bon totem. Si par exemple la Jusquiame n'est pas pour vous, elle vous donnera des expériences pires que celles qui découlent du travail avec le Datura ou la Belladone. Le tabac, Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, Nicotiana obtusifolia. La culture du tabac est autorisée en France, ce que peu de personnes savent, du moment que vous gardez vos pieds pour votre consommation personnelle. Tapez cultiver son tabac sur YouTube et vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous former. En plus, vous aurez un tabac sans additifs, donc moins nocif pour la santé, et vous ferez un beau pied de nez à la dictature mondiale. Comme nous l'avons vu en début de dossier, le tabac et le maïs sont parmi les plantes les plus utilisées pour les offrandes. On ne parle donc plus ici de leur consommation. On donne souvent l'une ou l'autre, ou les deux, de ces plantes à la terre en échange de ce qu'on lui prend. Par exemple, après avoir cueilli n'importe quel végétal, on répand un peu de tabac au sol. On en répand également là où il s'est passé une belle chose, un beau rituel, où l'on a trouvé une offrande de la nature, etc. Sachez que les Amérindiens du Nord, avec leur fameuse pipe sacrée, ne fumaient pas de tabac, mais de l'écorce de saule rouge d'Amérique, en fait du cornouiller sanguin américain, Cornus stolonifera apparemment. Des feuilles de bouillon blanc, Molène, Verbascum tapsus, de la busserolle, Arctostaphylos uva ursi, de la lobélie enflée, Lobelia inflata, ou d'autres plantes. Selon les régions, le mélange pouvait évoluer. Le tabac ne poussait à la base qu'en Amérique du Sud. Il s'est ensuite répandu à cause des Européens qui l'y ont récupéré et ont perpétué l'habitude de le fumer jusqu'à des doses toxiques et mortelles, ce que ne faisaient pas les Amérindiens. Le tabac dans les pipes sacrées s'est alors répandu tout simplement car il permettait une combustion plus facile du mélange de plantes traditionnelles. Toutes les variétés de tabac, comme vous le savez certainement, sont toxiques et provoquent une forte dépendance quand on les fume en trop grande quantité et sans y mettre d'intention, sans rituel sacré. Leur toxicité est évidemment accrue par les additifs qu'on ajoute à notre époque, mais même sans cela, on ne doit pas en fumer autant que les fumeurs modernes le font. Les Amérindiens du Sud fumaient d'ailleurs rarement à l'origine. Ils se servaient à la base du jus de tabac frais. Ce jus était absorbé par le nez, tête un peu penchée en arrière, grâce à un coquillage qui a un bout fin qu'on entrait partiellement dans une narine. On induisait ainsi une transe avec une forte ouverture de l'esprit, des chakras supérieurs. Et on ne renouvelait pas l'expérience au point d'en devenir dépendant. L'usage était raisonné. Il existait également un usage du tabac séché, mais la plupart du temps, ce n'était pas non plus en le fumant. On sélectionnait une variété de tabac riche en alcaloïdes. Et oui, il existe bien plus de variétés de tabac que ce que connaissent la plupart des gens. Les variétés chargées en certains alcaloïdes sont interdites en France. Et on en faisait du râpé ou happé, une poudre fine, à base de tabac principalement, mais pas seulement, que l'on mettait dans un genre de pipe très fine. Cela se fait encore de nos jours. On met une extrémité de la pipe dans une narine et à l'autre bout, on met une pincée de poudre. Et le chaman souffle à l'extrémité où il y a la poudre, ce qui la propulse dans le nez de la personne qui veut tester le happé. Il faut garder la poudre dans le nez le plus longtemps possible pour qu'elle fasse effet. Au bout d'un moment, le nez se met à couler, on peut alors se moucher. Il est possible de répéter l'opération quelques fois de suite pour augmenter l'effet. C'est sans danger s'il s'agit d'un vrai happé et pas d'une contrefaçon. Pour l'anecdote, l'utilisation du happé est montrée dans le film La forêt d'émeraude de John Boorman, 1985. C'est un mélange sacré, nettoyant et guérisseur. Il purifie l'aura et active le métabolisme de l'organisme pour qu'il élimine ses toxines, qui ouvre en même temps puissamment l'esprit. D'autres préparations et modes d'administration chamanique du tabac sont décrits dans Deux plantes enseignantes, le tabac et l'ayahuasca, de Narbi et Chanchari Pisuri. De nos jours, la tendance s'inverse et l'usage le plus courant, même en Amérique du Sud, est bien de fumer. Les totems du tabac et du chanvre sont certainement parmi les plus incompris, mal utilisés et décriés de notre époque. Pourtant, les deux peuvent augmenter les capacités médiumniques et chamaniques. Ils vous aideront à établir un bon contact avec le monde invisible. Le tabac comme le chanvre sont antidépresseurs et relaxants. Le tabac est aussi un bon purifiant des lieux et des personnes. C'est même carrément un guérisseur capable d'aider dans toutes les maladies tellement il purifie. On l'utilise même pour les exorcismes. Les Amérindiens soufflent de la fumée de tabac sur les zones malades du corps de leurs patients, où ils frottent des petits sachets remplis de tabac qu'ils vont ensuite jeter dans la nature au pied d'un arbre, volontaire, et capable de transmuter les énergies. Demandez son avis à l'arbre avant. Les Amérindiens du Sud disent que le tabac expulse toute douleur et permet de voir la réalité, utile par exemple pour déceler la vraie origine d'une maladie, etc. Dans leur culture, les totems du tabac et du jaguar sont liés, de même l'ayahuasca et le jaguar, la consommation du premier pouvant permettre d'acquérir les pouvoirs du second. Le tabac est une plante du masculin sacré. Dans son livre, associé à un jeu de cartes, L'oracle du peuple animal, Arnaud Rioux lie à juste titre le tabac à la guérison, la clarté, la protection, le territoire, le masculin sacré. L'âme du tabac se manifeste à ceux qu'elle choisit sous l'apparence d'un homme brun. L'accoutumance, la puissance, les rituels, les grands-parents, les ancêtres, l'histoire, la maison, l'emménagement, l'habitat, la terre. Que les totems du tabac et du maïs soient avec vous. Autres entéogènes, liste non exhaustive. Le galanga, Alpinia galanga certainement, peut-être aussi une autre espèce de galanga. Une plante, rhizome, du genre gingembre. Si on la fume, c'est psychotrope. L'amanite tue-mouche, Amanita muscaria. Ce champignon que tout le monde a déjà vu, rouge à points blancs, n'est pas mortel, contrairement à ce qu'en dit la croyance populaire. Mais c'est un puissant hallucinogène qui peut en prime mettre à mal votre système digestif. Les peuples de Sibérie, de l'Est de l'Inde et de la Scandinavie savaient néanmoins s'en servir. La très à la mode ayahuasca ou ayahuasca ou yagé, en fait mélange de deux plantes, la liana ayahuasca et la plante chacruna. L'usage en est montré de manière romancée dans le film Blueberry de Yann Kounen en 2004. On trouve de bons documentaires sur le sujet gratuitement sur YouTube, par exemple Voyage chamanique, envoyé spécial, sur la chaîne Investigation et Enquête, ou Ayahuasca d'autres mondes, documentaire Yann Kounen, Ayahuasca, le serpent et moi, etc. L'ayahuasca est aussi appelée liane des morts, ou mère avec un M majuscule, ou la liane des âmes. Pourtant, son âme n'est ni mâle ni femelle. On peut la voir en vision, autant sous la forme d'homme que de femme, ou les deux à la fois, ou sous forme d'animaux, comme le jaguar, le boa, le colibri, la chauve-souris, et sous bien d'autres formes encore. Elle est considérée un peu comme le peyoté, comme une mère pour ses consommateurs et plus largement pour l'humanité entière. Elle est porteuse d'une sagesse archaïque et primordiale. Elle parle souvent à ses utilisateurs des premiers âges du monde. Elle donne des informations qui, en temps normal, sont réservées aux mourants. Et elle amène véritablement l'âme à la frontière de la mort. Elle est souvent associée à deux serpents qui apparaissent parfois enroulés, comme sur le caducée par exemple, même si certains utilisateurs n'en voient parfois qu'un seul durant leur voyage. C'est le serpent ayahuasca, une force et une sagesse brute, aussi ancienne que notre monde. L'ayahuasca est un totem de première importance pour notre planète. S'il venait à disparaître, de grandes catastrophes s'en suivraient. La chair d'un poisson du Pacifique, nommé Kyphosus fuscus. L'ergot de seigle, Claviceps purpurea, un champignon parasite de certaines céréales et grâce auquel on a synthétisé le LSD au XXe siècle. Les champignons psilobes, différentes variétés se consomment notamment en Hollande. Ce champignon contient de la DMT, la même molécule que celle du mélange ayahuasca. Néanmoins, les doses doivent être respectées car le psilobe à forte dose peut provoquer des troubles cardiaques pouvant entraîner la mort. Si les doses sont respectées, on ne craint rien. Au moins une partie de ces variétés serait porteuse du masculin sacré. Le psilobe amène une énergie virile tout en étant doux, sûr, sans passion, bénéfique pour ses adeptes. Et il procure l'extase. Citation de Castaneda. Le San Pedro, Echinopsis pacanoi, un autre cactus, originaire des Andes. La racine d'Iboga, Tabernante Iboga, un arbuste africain. Voir le livre Bois sacré de Vincent Ravalec, etc., etc.